Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée par Nicolas Sendé, Margot Léridon et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et à la technique ce matin, Jacques Hubert. Troisième temps de notre semaine consacrée au poids de l'héritage des héros nationaux dans la vie politique contemporaine. Florian Delorme évoquait lundi l'attachement farouche des Britanniques à leur indépendance, de Winston Churchill à Boris Johnson, les rêves de grandeur du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et de son modèle Gamal Abdel Nasser. Avant d'aborder demain la mémoire de Nelson Mandela en Afrique du Sud, direction ce matin Cuba, l'héritage révolutionnaire de Fidel à Raúl Castro.
Ce n'est pas une victoire par les armes. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. C'est une victoire beaucoup plus belle. C'est une victoire de la raison. C'est une victoire de la justice. C'est une victoire de la morale. Ceux qui croyaient que nous n'étions que de simples guérilleros, ceux qui croyaient que nous ne savions rien faire d'autre que tirer, ceux qui croyaient qu'après nos victoires militaires, ils nous écraseraient dans le domaine de l'information, ils nous écraseraient dans le domaine de l'opinion publique, ceux-là ont constaté que la révolution cubaine sait aussi se battre et gagner des batailles dans ce domaine. Face au scénario turbulent qui s'est dessiné, nous avons défini comme priorité incontournable la préparation du pays à la défense et le développement de l'économie nationale. Les deux directions sont aussi importantes l'une que l'autre. En même temps, un certain nombre de décisions ont été prises pour orienter les performances de notre économie et pour résister et surmonter les nouveaux obstacles que nous impose l'intensification du siège économique et financier, sans pour autant renoncer au programme de développement en cours.
60 années séparent les deux archives que nous venons d'entendre. Fidel Castro, tout d'abord en janvier 1959, juste après la prise de la Havane par les révolutionnaires. Raúl Castro, son frère, en 2019, lors de la proclamation de la nouvelle Constitution. 60 années d'un régime fondé sur un idéal socialiste mais tenu d'une main de fer. Un régime qui aura survécu à toutes les crises et qui perdure aujourd'hui malgré la disparition de son dirigeant historique Fidel Castro qui s'est éteint un 25 novembre il y a tout juste 6 ans aujourd'hui. Un régime qui cherche à se renouveler tandis que les difficultés s'accumulent sur tous les fronts. L'exaspération croissante de la population devant les pénuries, les sanctions américaines qui n'ont jamais été aussi sévère que sous le mandat de Donald Trump et un isolement croissant sur la scène internationale. Dans ce contexte, le nouveau président Miguel Díaz-Canel, au pouvoir depuis 2018, sera-t-il l'homme de la rupture, lui qui n'a pas connu la révolution? La reconnaissance du marché en 2019 comme nécessaire à la croissance de l'économie cubaine signe-t-elle le renoncement à l'héritage socialiste et révolutionnaire de Castro? Enfin, comment exister? Comment se faire un nom dans l'ombre d'un leader politique d'une telle longévité, au discours mémorable et à la pratique d'un pouvoir sans partage. De Fidel à Raoul, que reste-t-il du castrisme à Cuba? Ils sont deux invités pour en discuter, pour essayer de répondre à ces questions aujourd'hui. Et je les remercie d'être avec nous. Janice Argaio, bonjour. Janice Argaio, bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation latino-américaine à l'Université Stendhal, Grenoble 3, spécialiste de Cuba et des Caraïbes. Vous aviez organisé en 2017 un colloque « Images, symboles et legs » de Che Guevara qui donnera lieu bientôt à une parution. Et également avec nous, mais aussi à distance, Olivier Dabène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, professeur des universités à Sciences Po, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'OPALC. Vous êtes l'auteur notamment de l'Amérique latine à l'époque contemporaine chez Armand Collin. Et puis aussi d'un ouvrage paru en anglais, Street Art and Democracy in Latin America, aux éditions Palgrave Macmillan. C'est aussi paru en 2020 avec un chapitre notamment consacré à Cuba et à la Havane. Alors, je le disais, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Fidel Castro. Il y a 6 ans, le leader Máximo tirait sa révérence. Est-ce que l'homme continue 6 ans après d'être une référence obligée pour l'ensemble de la classe politique cubaine actuelle, Olivier Dabène?
Oui, indiscutablement, c'est une référence, bien sûr. Il est là dans les mémoires et dans les esprits, dans les cœurs de beaucoup de dirigeants politiques, mais aussi des Cubains dans la rue. Cela dit, les 6 années qui viennent de s'écouler ont projeté Cuba dans un autre monde. L'époque de Fidel est bien, bien lointaine aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il reconnaîtrait d'ailleurs son pays. Bien sûr, il y a un héritage, je pense qu'on va en parler. Il est important. La figure reste une figure imposante. C'est absolument indiscutable. C'est un grand homme du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire, évidemment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les préoccupations des Cubains sont vraiment très concrètes et très pratiques. Et le grand Fidel, il est loin.
On va y venir. Votre sentiment également, Janice Argaio, est-ce que aujourd'hui le fantôme de Fidel, pour le dire comme ça, continue de hanter le palais présidentiel à La Havane en tant que figure?
Ah oui. Oui, oui, tout à fait. C'est un morceau de l'histoire, hein, comme vient de le dire Olivier Daben, effectivement. Ça reste un grand homme et le grand homme de la révolution cubaine. Mais je crois que le premier point à aborder, peut-être, c'est que le castrisme, il n'existe pas en tant que tel à Cuba. Je veux dire, pour les Cubains, il s'agit d'une révolution. La révolution cubaine n'est pas du régime castriste. Alors, l'ombre de Fidel plane et planera encore sans doute un moment sur la destinée de Cuba. Mais il y a aussi une transition qui est déjà amorcée. Alors, transition, si on veut employer ce terme, depuis le tournant du XXIe siècle, je crois.
Vous dites que le castrisme n'existe pas à Cuba. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que parler de castrisme à un Cubain, ça lui renvoie une image très occidentale, très européenne. Ils ne comprennent pas bien pourquoi on parle du régime castriste et pas du régime états-unien, par exemple. Hein, pourquoi on emploie des mots en les connotant dans le cas de Cuba et pas dans le cas d'autres pays.
Olivier Daben, le castrisme, c'est une construction qui s'est construite de l'extérieur, d'un point de vue occidental, d'un point de vue extérieur, peut-être notamment européen ou états-unien. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, en partie. Il y a aussi quand même des références en Amérique latine où on adore qualifier un régime en prenant le nom de son dirigeant et en ajoutant isme. Donc il y en a partout en Amérique latine, du péronisme, du bolsonarisme aujourd'hui au Brésil, etc., etc. Mais ce qui est vrai, c'est que à Cuba, on préfère parler d'un type de régime, voire les Cubains prétendent s'être organisés dans une démocratie qui est différente de celle que nous pratiquons dans les pays occidentaux, et revendiquent la spécificité de leur modèle révolutionnaire qui n'est pas la démocratie représentative telle que nous la pratiquons en Occident.
Oui, parce que le castrisme, quand on dit castrisme, c'est peut-être une manière de qualifier une spécificité de cette révolution cubaine qui se revendique de l'idéal socialiste, mais qui a quand même ses spécificités propres, Janice Argaio. Et donc le castrisme est peut-être aussi un terme qui permet de qualifier ce qui ont été les bases idéologiques, les priorités aussi du régime de Castro, du régime cubain. Est-ce qu'on peut commencer à esquisser justement quelles sont ces grandes spécificités de la révolution cubaine et de ce qu'il en reste aujourd'hui, Janice Argaio?
Ce qu'il en reste. Alors, un combat contre l'impérialisme et l'ingérence des États-Unis. Maintenant, alors je ne sais pas si vous m'entendez, parce que malheureusement ça coupe.
On vous entend, allez-y. Ah, cette fois ça vient de couper. Janice Argaio, est-ce que vous êtes là? Je refais un deuxième essai. Elle n'est plus là. Olivier Daben, je vous repose la même question parce que c'est le cœur de notre sujet. Essayer de comprendre ce qu'est le castrisme finalement avant de s'interroger sur son héritage et ses spécificités.
Bah, écoutez, c'est vrai que ce qu'on appellerait castrisme ou modèle révolutionnaire cubain repose sur un certain nombre de réformes qui d'ailleurs ont été mises en place très vite dès les premières années de la révolution, et il s'agit surtout d'un modèle de justice redistributive, donc qui passe par une réforme agraire importante, et puis qui passe par des campagnes d'alphabétisation, l'éducation et la santé pour tous, un logement pour tous. Le modèle socialiste, il a été installé très rapidement en l'espace de 2-3 ans. Ensuite est venue la difficile survie en fonction des époques, des opportunités économiques, aussi de la conjoncture dont on parlera peut-être. Ça a été compliqué, mais il en reste quand même une spécificité. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de morts à travers le monde, par exemple, pour la crise du Covid-19. Bon, bah, Cuba, je crois qu'ils en sont à 1,16 morts par 100 000 habitants, il y a eu 130 morts pour 11 millions d'habitants. Donc voilà, c'est si vous voulez ce que les Cubains aiment bien mettre en avant, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la santé publique, qui reste aujourd'hui très supérieure à ce que l'on voit dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine.
Janice Argaio qu'on a retrouvée.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Daben. Bon, je n'ai pas entendu la totalité de l'intervention, mais effectivement, il y a des acquis de la Révolution qui sont encore importants pour les Cubains aujourd'hui, dont ils sont fiers, et ils estiment que c'est vraiment la Révolution qui leur a apporté effectivement santé et éducation, même si ces deux secteurs connaissent des problèmes, particulièrement la santé aujourd'hui, du fait des problèmes économiques, de la disparition de certains alliés tels que le Venezuela, par exemple. Qui n'est plus le partenaire économique qu'il a pu être, et les sanctions états-uniennes qui sont de plus en plus importantes. Mais cela va peut-être changer, peut-être que 2021 va être une année l'année de la nouvelle donne pour Cuba dans bien des domaines.
Alors, puisqu'on s'interroge toute cette semaine sur les filiations entre les dirigeants actuels et les grands leaders politiques du passé, je voudrais qu'on s'arrête sur la figure du président actuel de Cuba. Il n'est pas très connu encore, Miguel Díaz-Canel. Il est au pouvoir depuis 2018 seulement. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre qui est cet homme, dans quelle filiation il s'inscrit? Et puis, est-ce que on sait déjà si ce sera l'homme qui va faire perdurer la flamme révolutionnaire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui risque plutôt d'incarner la rupture, Olivier Daben?
Non, je pense qu'il n'est pas question de rupture à Cuba. Il n'en a jamais été question. Díaz-Canel, c'est vraiment l'archétype du bureaucrate qui a gravi un certain nombre d'échelons, en grande partie d'ailleurs pour ses qualités de pragmatisme, je dirais. C'est quelqu'un qui est connu pour sa capacité à apporter des solutions concrètes à des problèmes concrets, ce qui fait parfois tragiquement défaut dans les gouvernements qui se sont succédés, jusqu'à Raúl Castro d'ailleurs. Raúl Castro était aussi quelqu'un, et toujours quelqu'un qui était considéré comme susceptible de trouver des solutions, là où son frère Fidel faisait des grands discours très abstraits, lui était plutôt les mains dans le cambouis. Mais pour revenir à Díaz-Canel, oui, donc c'est pas quelqu'un qui va introduire une rupture. De toute façon, il n'en aura peut-être pas le temps, parce que la nouvelle constitution limite à deux mandats consécutifs pour un nouveau président. Donc on n'aura pas un président Díaz-Canel pendant 20 ans ou 30 ans. Et de ce point de vue-là, quand on regarde son entourage, quand on regarde aussi la composition de l'Assemblée nationale, il y a un certain rajeunissement, il y a une très nette féminisation dans la classe politique cubaine. Mais disons que la succession, le renouvellement générationnel n'implique pas une transition politique.
Alors, vous dites qu'il ne va pas incarner la rupture, et pourtant c'est lui qui a présidé à l'adoption d'une nouvelle constitution l'année dernière à Cuba, une constitution qui mentionnait, qui incarnait peut-être quelques petites ruptures tout de même, en reconnaissant notamment le rôle du marché dans la nécessité du marché dans la croissance cubaine. Est-ce que ça c'était pas quand même une rupture, et est-ce que c'est pas lui qui l'a porté?
Il ne faut pas oublier que Raúl Castro présidait les travaux de la Constituante. Donc la Constitution, elle est beaucoup plus, si vous voulez, le produit des réflexions de Raúl Castro que de Díaz-Canel. Et puis ensuite, si on veut vraiment parler des changements, moi je pense qu'il faut remonter plus loin. C'est-à-dire, dès 2003, par exemple, on évoque ce qu'on appelle l'actualisation du modèle. Et Fidel Castro, qui est encore aux commandes, est tout à fait conscient que le modèle est très fragile. Le modèle socialiste est très dépendant d'assistance économique extérieure, et que donc il faut l'actualiser. Ça, c'est 2003. Et depuis 2003, il y a eu tout un tas d'épisodes. Il y a eu le congrès du Parti communiste en 2007, où on a adopté un projet d'orientation de la politique économique et sociale. Enfin, les Cubains sont un petit peu aussi les rois de l'autocritique. Quand ça va mal, ils le disent et ils essayent de rectifier. Le problème, c'est qu'il y a tout un tas de blocages depuis une quinzaine d'années maintenant, qui ont fait que toutes ces réformes qui sont envisagées, ou voire même le rôle du secteur privé qui est effectivement mentionné dans la nouvelle constitution, n'aboutissent pas à des résultats tangibles et concrets dans la vie quotidienne. Et donc on a vu par exemple il y a quelques mois Díaz-Canel de nouveau dire qu'il fallait donner un coup de fouet à l'économie, qu'il fallait libérer les énergies du secteur privé en particulier.
Bon, et ça, c'est pas une rupture, Olivier Daben, quand même assez forte avec la rhétorique socialiste de Fidel Castro.
Oui, on peut le considérer comme tel, mais c'est plutôt, ça s'inscrit plutôt dans la continuité. C'est-à-dire, ça fait un petit moment déjà que progressivement, l'initiative privée est reconnue là où elle ne l'était pas. Et donc, en fait, si vous voulez, là où on ne reconnaissait même pas la propriété privée il y a encore quelques années, c'est vrai qu'il y a une rupture. Si on saute plusieurs années, mais elle est lente. C'est une rupture au ralenti, si vous voulez. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est par exemple d'accepter que l'initiative privée se déploie dans tous les domaines et non pas d'autoriser goutte à goutte, si vous voulez, des gens se mettre à leur compte pour ouvrir un petit restaurant ou un salon de coiffure. Il s'agirait de franchir le pas et de dire toutes les activités sont ouvertes à la concurrence et à l'initiative privée. Ça, ce serait une véritable rupture.
Janice Argaillot, si je comprends bien ce que dit Olivier Dabenne, finalement, peut-être que c'est Raoul Castro, pourtant compagnon d'armes de la Révolution, de la génération de son frère Fidel, qui aurait été à l'origine des plus grandes ruptures, adaptations, transformations, je ne sais pas quel est le bon terme, de l'économie et du système cubain que le président actuel ?
Ah, tout à fait. On peut dire que tout de même, après avoir succédé à son frère Fidel, Raoul a engagé une série de réformes qui étaient avant, autrefois, impensables. Alors effectivement, il y a l'ouverture de l'économie au cuenta propismo, hein, au petit entrepreneuriat privé, qui concerne 25 à 30% de la population active aujourd'hui. Il a tout de même aussi orchestré le rapprochement avec les États-Unis. Il a développé, renforcé plutôt le secteur du tourisme. Il a organisé quelques réformes pour les agriculteurs. Il est aussi l'auteur de l'assouplissement des règles d'immigration. Hein. La réforme migratoire de 2013-2014 a permis aux Cubains, aux Cubaines de ne plus avoir à demander un permis de sortie finalement pour pouvoir voyager hors de l'île. Donc effectivement, il a été l'artisan du changement. Je crois que le problème est que les réformes qui sont envisagées ne sont pas nécessairement toujours très bien expliquées. On a souvent des discours sibyllins, très généraux, des discours qui annoncent des changements structurels sans en préciser la teneur exacte. Et pour beaucoup d'observateurs, aujourd'hui encore, les réformes économiques sont trop timides pour relancer vraiment l'économie de l'île.
Alors, il y a une échéance importante dans la vie politique cubaine qui se profile au printemps 2021, le congrès du Parti communiste. Raoul Castro, qui préside toujours, qui est toujours donc premier secrétaire général du parti et qui de ce fait continue de présider à la destinée politique de l'île, a annoncé son départ. Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là que va vraiment se jouer une transition? Et quels sont généralement les enjeux politiques de ce congrès politique qui s'annonce pour le mois d'avril? Janice Argaillot.
Alors, bien malin qui peut prédire l'avenir, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une échéance importante, mais je ne crois pas qu'on s'inscrira dans une rupture, là encore. On sera sans doute dans la permanence du changement instauré depuis 2003, 2004, 2006. Je ne crois pas du tout en l'arrivée d'une nouvelle figure qui remettrait en cause les fondements de ce qu'a pu être la Révolution cubaine depuis 1959.
Olivier Dabenne.
Non, je suis complètement d'accord. Ce qui va se jouer, c'est quand même aussi la succession officielle entre Raúl Castro et Díaz-Canel, parce que c'est Díaz-Canel qui va désormais, qui sera le premier secrétaire du Parti communiste cubain, donc il va concentrer les deux fonctions, président de la République et secrétaire général du parti. Auparavant, il n'y avait que la fonction de secrétaire général, mais autrefois, les Castro cumulaient ça aussi avec le contrôle des forces armées, ce qui n'est pas le cas de Díaz-Canel. Mais non, moi je suis d'accord, il n'y aura pas de rupture. Tout est tellement bien organisé, si vous voulez, à Cuba, qu'on évite les ruptures. On n'en veut pas. C'est pas pour autant d'ailleurs qu'il n'y a pas de débat. Il ne faut pas imaginer cette préparation d'un congrès comme une entreprise finalement totalement close et presque totalitaire. La préparation de congrès à Cuba se traduit souvent par un exercice de réflexion à tous les niveaux. Et évidemment, après, on prend un soin très attentif à filtrer les conclusions éventuellement, disons, subversives qui pourraient émaner de ces débats. Mais il y a quand même des discussions. Et ces discussions peuvent porter sur des thèmes qui sont très généraux, comme qu'est-ce qui se passe à Cuba avec le modèle révolutionnaire quand on est en face de creusement des inégalités, par exemple. C'est une des problématiques aujourd'hui de Cuba, c'est comment limiter, si vous voulez, la portée des initiatives privées pour que le développement d'une économie privée ne se traduisent pas par davantage d'inégalités, parce que Cuba est en train de devenir très inégalitaire, ce qui est évidemment complètement inadmissible vu de la perspective du socialisme.
Oui, c'est une tendance qu'on observe dans la société cubaine. Et alors, il y a une autre échéance qui est importante dans le système économique cubain, c'est l'annonce de la fin du système des deux monnaies. Il faut rappeler que dans le système actuel, en fait, deux monnaies sont en circulation à Cuba, le peso cubain et le peso convertible, qu'on appelle le CUC. Et cette dernière a 20 fois plus de valeur, elle permet d'acheter et d'importer des marchandises de l'extérieur, mais tout le monde n'y a pas accès et les salaires sont payés en peso cubain, ce qui exacerbe les tensions et les inégalités que vous décriviez à l'instant. Ça fait des années que le pouvoir annonce l'unification des deux systèmes, et on a encore entendu récemment en novembre qu'on devrait bientôt y arriver. Est-ce que c'est une petite révolution pour l'économie cubaine, et dans quelle mesure ça pourrait réveiller, exacerber les tensions sociales à Cuba?
Agnès
Argaillot, je vous en prie.
C'est compliqué, là encore, de dire ce qui va se passer. Comme vous le dites, c'est une réforme qui est annoncée depuis très longtemps, qui n'a jamais pu être mise en place parce que ça va poser des difficultés qui sont quand même importantes. Alors, l'unification monétaire de l'île serait sans doute une avancée, parce qu'elle permettrait de revenir sans doute à plus d'égalité et à un égalitarisme qui avait été prôné par la Révolution. En l'état actuel, je vous avoue que je ne vois pas très bien comment on va mener cette réforme, parce qu'on a développé le tourisme sur la base de ce coup, de cette monnaie qui avait été indexée sur le dollar des États-Unis pour empêcher justement ce dollar d'entrer dans l'île. Bon, j'avoue que sur ce point, je crois qu'il y a encore un gros travail à faire, y compris auprès de la population, parce que dans les retours qui me sont faits des amis qui sont dans l'île, c'est bien cette espèce de confusion, de nébuleuse. Il va y avoir quelque chose, on nous dit qu'il va y avoir des réformes, mais on ne comprend pas très bien comment ça va nous concerner, nous, et surtout comment ça va améliorer notre quotidien. Donc je crois qu'il y a vraiment un réel effort de la part des autorités à faire sur l'explicitation de cette réforme.
Olivier Dabène, Janice Argaillot disait cette seconde monnaie avait été mise en place pour empêcher les dollars d'entrer dans l'île. Néanmoins, j'ai pu lire en préparant cette émission que on trouve des dollars à Cuba, notamment sur le marché noir, et que en septembre, les autorités avaient même autorisé des magasins à vendre des articles uniquement en monnaie étrangère. Et donc, est-ce qu'on n'a pas un système qui entretient une certaine hypocrisie sur cette question de la présence ou pas du dollar américain sur l'île?
Absolument. Et d'ailleurs, le gouvernement récemment est allé encore plus loin en éliminant une taxe de 10% sur les dollars qui circulaient dans le pays. Donc en fait, ce qu'il cherche à faire maintenant, c'est à favoriser, à marche forcée, la dollarisation, si vous voulez, de l'économie. Alors, il y a toujours eu des magasins qui vendaient en CUC pour les touristes. La nouveauté, c'est effectivement qu'il y a de plus en plus de magasins qui vendent en moneda libremente convertible, comme ils disent, c'est-à-dire en fait des dollars. Donc en fait, et les magasins qui vendent en dollars sont bien mieux achalandés que les magasins qui vendent en pesos cubains. Donc la colère gronde, si vous voulez, parce que aujourd'hui, pour avoir des produits même de première nécessité, et même surtout des aliments, parce qu'avant on utilisait la monnaie convertible pour acheter de l'électroménager ou des choses comme ça. Maintenant, c'est aussi pour des aliments. Donc en fait, il y a un apartheid économique, si vous voulez, qui sépare Cuba et les gens qui ont des dollars de Cuba, les gens qui n'ont pas accès aux dollars. Et donc, si vous voulez, c'est un des principaux facteurs d'aggravation des inégalités aujourd'hui. Alors, comment s'en débarrasser? C'est pas si compliqué, en fait, mais tout dépend d'une décision politique qui va être extrêmement difficile à prendre quand il va falloir fixer un taux de change, si vous voulez, parce que de deux choses l'une, où on peut imaginer un scénario à l'allemande, quand il y a eu la réunification monétaire avec l'Allemagne de l'Est, le taux de change, il a été très favorable. Donc si le taux de change est favorable, c'est de tous les Cubains qui ont de l'épargne en monnaie nationale vont se retrouver riches, enfin pas riches, mais disons, en fonction du niveau du taux de change, on va permettre aux Cubains soit de plonger dans la misère, soit à l'inverse, d'être, si vous voulez, relativement rassurés. Mais pour pouvoir, enfin, Cuba, c'est pas l'Allemagne, hein, et pour pouvoir offrir aux Cubains un taux de change favorable pour leur épargne en pesos cubains, il faut des ressources que Cuba n'a pas. Donc, en fait, on va vers une aggravation de cet apartheid économique et monétaire, et du coup, davantage encore de difficultés dans la vie quotidienne des gens pour essayer de se procurer des dollars. Vous avez peut-être vu aussi que Western Union a fermé ses portes. Ça, c'est une des conséquences.
Sous pression de Donald Trump, effectivement.
Sous pression de Donald Trump. Et ça, c'était, si vous voulez, un moyen très efficace pour les Cubains de la diaspora pour envoyer des dollars à leur famille. C'est devenu impossible. Donc, toutes ces améliorations concrètes qu'attendent les Cubains aujourd'hui, ça n'en prend pas la direction.
Oui, mais cette dollarisation de l'économie, pour reprendre vos termes, est-ce qu'elle ne va pas, pour reprendre un peu le fil de notre émission, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de ce qui était l'un des socles de la pensée de Castro, à savoir vraiment l'indépendance de Cuba, surtout vis-à-vis des États-Unis. Et l'idée était d'empêcher le fait que des dollars arrivent sur l'île. Alors voilà, encore une fois, est-ce que cette dollarisation de l'économie, ce n'est pas un renoncement vis-à-vis de l'héritage de Castro, Janice Argaillot ?
Là, pour le coup, une réelle rupture, oui, effectivement, ça marque l'évolution vraiment flagrante de la politique cubaine, mais c'est une évolution qui est nécessaire aussi parce qu'on s'adapte au monde dans lequel on évolue, que Cuba est une île qui est connectée même si on a voulu l'isoler, et donc elle continue à évoluer dans le monde dans lequel nous vivons. Je crois, pour reprendre également ce que disait Monsieur Daben, que beaucoup de Cubains aimeraient peut-être pas une transition et peut-être pas de grandes réformes, mais en tout cas des évolutions qui mèneraient notamment, effectivement, à un approvisionnement plus sûr et simple en denrées alimentaires.
Alors, je voudrais qu'on en vienne aussi à la question de l'ouverture, puisqu'on parle d'ouverture économique, mais aussi de l'ouverture démocratique, point d'interrogation, du régime de Cuba. Lors du référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution en 2019, environ 15% des Cubains ont voté non, ce qui est assez considérable pour Cuba, étant donné qu'il n'y avait pas d'espace pour faire campagne, pour exprimer ses idées et ce vote en faveur du non. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont les tenants de ce non et par qui est incarnée l'opposition politique à Cuba, Janice Argaillot?
L'opposition politique, elle est diverse, elle est compliquée à appréhender. Alors, on a différentes manifestations, parfois dans les arts. Hein. On a effectivement beaucoup de groupes de rap, on va dire, notamment à La Havane, qui expriment une contestation du régime, beaucoup de rockers, puisque le rock a été longtemps perçu comme une musique de déviants idéologiques. On a beaucoup de blogueurs également, qui sont de plus en plus connus à l'étranger. Et à ce sujet, le gouvernement de Miguel Díaz-Canel a fait passer une réforme en juillet 2019. On a autorisé les Cubains à importer des routeurs pour créer des réseaux Wi-Fi privés, mais qui restent malgré tout sous le contrôle de l'État. Donc c'est toujours le paradoxe cubain. En plus, ça coûte excessivement cher, donc tous les Cubains ne peuvent pas se payer ce genre de service. Donc la contestation, elle n'est pas une. La dissidence n'est pas une. Il faut aussi bien sûr compter avec la communauté cubaine de Miami, même si quelquefois on a voulu leur nier toute cubanité. Donc c'est finalement, je pense, cette dispersion et le fait qu'il n'y ait pas. Il y a quelques figures qui se détachent bien sûr dans la dissidence cubaine, mais je crois que finalement le fait d'avoir appris à vivre dans la clandestinité aide les voix divergentes à continuer à se faire entendre auprès de la population, sans pour autant être trop aux prises de la répression du régime.
Olivier Daben, est-ce que vous pensez que les ouvertures sur le plan économique pourraient augurer d'une ouverture plus grande sur le plan de la pluralité politique et démocratique à Cuba dans les années à venir ?
Alors effectivement, c'est le grand enjeu. Hein. En sciences politiques, on a de multiples théories là-dessus, sur cette idée que le développement économique favorise l'émergence d'une classe moyenne qui devient exigeante au plan politique et termine avec la démocratisation, etc. Bon, c'est vrai que ça marche pas toujours. Ça peut marcher de temps en temps. Dans le cas de Cuba, c'est vraiment extrêmement compliqué parce que justement, il n'y a pas de développement économique. Le pays vit en crise depuis très longtemps. Et une partie de ce que vous disiez tout à l'heure sur les contradictions du régime, la dollarisation, vient de l'époque des années 90, c'était la période spéciale en temps de paix qu'ils avaient, comme ils l'avaient appelé, où il a fallu ouvrir les portes au tourisme, et avec le tourisme arrivent les dollars, et avec les dollars arrive la possible fragilisation du modèle. Donc c'est une situation qui est complexe, et c'est vrai qu'on voit pas émerger aujourd'hui une classe moyenne. On voit émerger une classe moyenne, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a des inégalités, mais cette classe moyenne n'est pas très exigeante au plan des principes démocratiques. Elle s'accommode finalement de la forme du régime, d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contestation, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais en même temps, c'est toujours sur le fil du rasoir. Hein. On parlait d'un rappeur, il y en a un en ce moment, Daniel Solis, qui a été arrêté et mis en prison. Et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement San Isidro, qui est aujourd'hui en grève de la faim. Je suis notamment très préoccupé par Luis Manuel Otero Alcántara, qui est quelqu'un que j'ai interviewé pour mon livre, et qui est un artiste visuel et qui est aujourd'hui en grève de la faim et en grève de la soif. Donc sa santé est en danger. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi le régime qui est extrêmement répressif et qui s'est toujours un petit peu, sans beaucoup de repères, fixer quand même des limites jusqu'où on peut aller. Mais moi, je fais quand même une différence entre ce genre d'opposition, de contestation par la musique, la culture, etc., et la dissidence qui est nettement plus politique. Et c'est vrai qu'on les figures comme Yoani Sanchez, par exemple, sont connues à l'international. D'autres figures le sont aussi, mais ne sont pas forcément beaucoup de visibilité à l'intérieur de l'île. Même avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Mais il ne faut pas compter sur cette opposition-là pour enclencher une dynamique qui aboutirait à la démocratisation de l'île. Ça, je pense que c'est très très, très naïf de le croire.
Et donc, quand le président actuel, Miguel Díaz-Canel, se présente comme un homme moderne, un homme qui a favorisé l'émergence de la 3G sur l'île, qui a ouvert son compte Twitter, il prône l'essor d'Internet sur l'île, il ne faut pas en déduire que c'est l'homme qui va permettre l'expression d'une plus grande pluralité politique et de davantage de voix critiques sur l'île. C'est ça qu'il faut comprendre, Olivier Dabenne ?
Absolument, oui. C'est sûr que le message qu'il veut faire passer, c'est contentez-vous de ce renouvellement générationnel. J'insiste aussi sur le renouvellement en termes de genre, parce que l'Assemblée qui a été élue est la plus féminisée du monde. Il y a 53% des députés qui sont des femmes, et sont beaucoup de jeunes, beaucoup de noirs aussi. Donc il y a un renouvellement démographique incontestable, mais qui est loin du compte, parce qu'il n'a pas aboutir à... Si vous voulez, la composante démocratique du modèle cubain, on la trouve tout au début des processus électoraux, tous les 5 ans, quand il s'agit de sélectionner des candidats pour des élections au niveau local. Et là, vous avez de la délibération, vous avez des gens qui se réunissent et qui, sur une base méritocratique, vont choisir ceux d'entre eux qui sont dignes d'être leurs représentants. Mais ça s'arrête là, ça s'arrête au niveau local, et on prend bien soin aussi il y a une commission qui vérifie cette sélection de candidatures, on prend bien soin qu'ils soient compatibles avec le modèle.
Et dans les changements en matière de gouvernance, il y a aussi la limite désormais du mandat présidentiel à 2 mandats, il y a aussi une limite d'âge qui est instaurée par cette nouvelle constitution, la création d'un poste de Premier ministre, ce qui n'existait pas à l'ère de Fidel Castro. Janice Argaio, là encore, des évolutions dans cet héritage de la concentration du pouvoir qui a été la marque de Fidel Castro. On se défait de cet héritage, mais le parti unique, le parti communiste, reste l'alpha et l'oméga de la vie politique cubaine.
Mais tout à fait, tout à fait. Dès son élection, de toute façon, Miguel Díaz-Canel s'est engagé à poursuivre la révolution initiée par Fidel Castro, hein, ce sont ses mots. Alors effectivement, les réformes politiques en cours, les réformes institutionnelles vont sans doute nous amener à un leadership qui sera plus institutionnel précisément que charismatique. Et là, c'est assez évident à comprendre. De toute façon, il est très difficile de succéder à Fidel Castro dès qu'on parle de Fidel le tribun, Fidel l'orateur. Là, on est effectivement dans une nécessité de rupture parce que sinon, la comparaison n'est pas à l'avantage des successeurs. Il faut bien se rappeler que quand Raoul Castro a été élu en février 2008, dans la presse française, si on résume, on l'a présenté comme un crétin alcoolique possédant le charisme d'une huître. Ça, ce sont des mots que j'ai trouvés dans différents titres de la presse française. Alors effectivement, il faut aussi se débarrasser quelque part de l'image de Fidel Castro en tant que orateur tribun, en tant que cet homme qui faisait des discours parfois de 7 heures d'affilée. Mais ça, c'est plutôt sans doute positif. Et puis Miguel Díaz-Canel, effectivement, comme vous le disiez, il cultive à la fois une image disons assez progressiste, défenseur d'un plus grand accès à Internet, d'une presse qu'il voudrait plus critique, mais sans expliquer ce qu'il met derrière le terme critique. On dit même qu'il aime le rock, voilà. Et de l'autre côté, tout le monde sait bien, la dissidence, entre guillemets, c'est bien qu'il n'y a pas de place pour une contestation trop forte. Les diplomates savent bien qu'ils n'ont pas intérêt à trop critiquer le régime, les réformes en place, etc.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'une dimension importante de l'héritage de Castro, c'est la place prépondérante de la santé dans le système politique et aussi l'usage de la santé comme outil diplomatique. Encore aujourd'hui, Cuba a envoyé des médecins à travers la planète, dans de nombreux pays, notamment en Italie, pour faire face à la crise du Covid-19. Est-ce que là, on a un exemple, un bel exemple de continuité idéologique sur cette question de la santé? Yanis Argaillot.
Oui, l'internationalisme n'est plus nécessairement... Alors, on n'est plus dans des interventions militaires, on n'est plus dans de l'aide logistique, on n'est plus dans de l'aide à des guérillas, mais on est dans de l'internationalisme, c'est présenté comme ça, qui confère bien sûr à la diplomatie. De toute façon, Fidel Castro parlait de son armée en blouse blanche, donc c'est bien qu'ils sont censés être les représentants d'un certain système, les représentants des réussites révolutionnaires. Bon, et cela étant, il faut reconnaître que les médecins cubains ont été bien utiles et qu'on a été contents de les voir arriver là en Italie, en Andorre, dans différents pays suite à l'épidémie de Covid. Mais ils sont également intervenus en 2010 en Haïti suite à l'épidémie de choléra. Les Cubains ont soigné beaucoup d'enfants qui avaient été irradiés lors de la catastrophe de Tchernobyl. Donc la médecine cubaine est une médecine qui est réelle, concrète, qui avec des médecins qui sont compétents, contrairement à ce qu'on a pu entendre depuis l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil. Mais ils ont aussi pour mission d'envoyer une image de Cuba qui n'est pas celle d'un goulag totalitaire.
Olivier Daben, le fait de venir en aide à d'autres pays en envoyant des médecins, ça relève du soft power cubain, c'est de la stratégie diplomatico-politique ou c'est juste une fidélité au principe de la révolution cubaine ?
Non, vous avez raison, c'est une vraie stratégie politico-diplomatique, mais je dirais aussi économique. C'est une importante source d'entrée de devises, parce que c'est pas gratuit tout ça. Les médecins sont relativement bien payés quand ils sont à l'étranger, mais une part importante de ces émoluments vont directement dans les poches du gouvernement cubain, ce qui donne régulièrement d'ailleurs lieu à des manifestations de mauvaise humeur de ces médecins qui estiment être exploités. Certains d'entre eux d'ailleurs ne reviennent pas, mais il faut pas négliger cette source de devises. Beaucoup de choses à Cuba finalement sont orientées vers cette recherche d'entrée de devises pour financer le modèle socialiste. C'est le cas de la santé comme du tourisme.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
On est avec vous, Olivier Daben, Yanis Argaillot. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à la dimension internationale de la révolution cubaine et à son héritage sur le continent africain.
Certains impérialistes se demandent pourquoi nous aidons les Angolais. Ils se demandent ce qui nous intéresse tant là-bas. Ils ont l'habitude de se dire que quand un pays y fait quelque chose, c'est pour chercher du pétrole, du cuivre, du diamant ou une autre ressource naturelle. Non. nous n'y cherchons aucun intérêt matériel. Et c'est logique que les impérialistes ne comprennent pas cela, parce qu'ils sont guidés par des critères qui tiennent du chauvinisme, du nationalisme et de l'égoïsme. Nous remplissons un devoir élémentaire de l'internationalisme quand nous apportons notre aide au peuple angolais.
Voilà, discours de Fidel Castro en 75 lors d'un congrès du Parti communiste. Fidel Castro justifiant le soutien politique et militaire apporté par Cuba à l'Angola, qui était à l'époque un terrain d'affrontement des grandes puissances en pleine guerre froide. Et c'est vrai qu'en fait, dès les années 60, hein, alors que les processus de décolonisation sont à peine achevés sur le continent, le régime cubain est très actif dans le soutien à différents mouvements révolutionnaires en Angola, mais aussi au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Congo, en Namibie. On va essayer de comprendre quel a été le rôle de Cuba et du castrisme à cette époque sur le continent africain et quel est son héritage aujourd'hui. Et on accueille pour cela un nouvel invité. Bonjour Jean-Pierre Bas.
Bonjour.
Vous êtes historien et archiviste, chercheur associé à l'École nationale des chartes, PSL Université. Vous êtes aussi co-auteur du blog Africafort sur libération.fr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Jean-Pierre Bas, comment la révolution cubaine est devenue un modèle, puis une alliée militaire pour une grande partie des révolutionnaires africains dès les années 60, au lendemain de la décolonisation ?
Il y a plusieurs étapes à cela. La première, c'est que Cuba rejoint après 1959 ce qu'il est convenu d'appeler la Tricontinentale, l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Et à ce titre-là, la première contribution que va proposer Cuba, c'est l'exportation de son modèle guérillero avec le Che, qui va notamment être envoyé dans l'est du Congo. Il y rencontrera entre autres celui qui sera connu comme le Mzé, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila, verra plusieurs mouvements marxistes, enfin qui se disent d'affiliation marxiste, qui sont des mouvements anti-impérialistes dans tous les cas, qui mènent la guerre contre le gouvernement Tshombe, qui la poursuivront parfois contre Mobutu. Et l'idée est bien que le Congo serait, dans les années 60, en 1965, l'épicentre de la guerre froide en Afrique, et donc l'endroit où la théorie fauquiste du foyer révolutionnaire doit être exportée. Alors ça marche pas très très bien, l'expérience du Che, qui revient et qui écrit quand même ses fameux passages de la guerre révolutionnaire dans son journal du Congo. Toutefois, il laisse derrière lui, dans les années 60, un modèle idéologique. C'est l'idée, justement, de cette révolution de la jeunesse, avec cette idée où l'on va retrouver des épigones, notamment, ou en tout cas des inspirations. Ange Diawara, au Congo-Brazzaville, dans son look, la barbe, le treillis militaire, le béret, les démarches de conscientisation, va incarner cette démarche de révolution d'une nouvelle génération qui doit se désaliéner des impérialistes. Donc il y a quelque chose de très fort dans les années 60, dans l'imaginaire que ça provoque, plus encore que dans les impacts militaires.
Oui, vous parlez du modèle qu'a pu constituer notamment Che Guevara auprès de certains leaders africains, mais au-delà de ce modèle incarné de l'homme révolutionnaire, est-ce qu'on peut essayer de comprendre quels ont été vraiment les apports spécifiques des Cubains en Afrique à une époque où ils ne sont pas les seuls mouvements communistes et révolutionnaires à agir sur le continent? Il y a aussi les Soviétiques, évidemment, mais aussi les Chinois. Quelle est la spécificité vraiment des Cubains? Qu'est-ce qu'ils apportent à leurs partenaires révolutionnaires? Est-ce que, voilà, au-delà du modèle, est-ce qu'il y a aussi, vous l'évoquez, une matrice idéologique spécifique ou une idée de l'insurrection spécifiquement cubaine?
Premièrement, Cuba, à la différence, à l'aube des indépendances, dans les années 60, à la différence de la Chine ou de l'URSS, ce sont encore les Barbudos. Ils sortent en treillis. Et ce sont encore des hommes en armes qui veulent révolutionner littéralement leur pays. Il n'y a pas encore un système traditionnel qui est venu encadenasser le discours géopolitique. Ensuite, Cuba propose différentes fenêtres, si j'ose dire, au peuple africain. La première, dans l'idéologie, c'est l'idée de l'alphabétisation comme clé de l'émancipation. Castro en a fait d'ailleurs un modèle, puisqu'au début des années 60, en un an, il lance de grands programmes d'alphabétisation, et les révolutionnaires africains, notamment au Congo-Brazzaville, Thomas Sankara reprendra la même théorie au Burkina Faso, dans d'autres pays également, il y a l'idée qu'une révolution n'est pas qu'une révolution militaire, c'est aussi une révolution intellectuelle, et que pour cela, il faut préparer les futurs citoyens en leur apprenant d'abord à lire. Donc premièrement, c'est cette volonté d'éducation. Deuxièmement, c'est aussi l'idée qu'il y a une dynamique, et l'image du médecin cubain n'est pas un fantasme, puisque une partie du soft power, de l'influence et du rayonnement de Castro, du Che lui-même, c'est qu'il était médecin et qu'il se présentait justement au contact des populations dans l'est du Congo. Et puis troisièmement, c'est le fait que Cuba va engager physiquement des troupes auprès des différents mouvements insurrectionnels. Castro lui-même va aller rencontrer différents chefs révolutionnaires en Afrique. Alors d'abord ceux qui viennent des maquis, Amilcar Cabral, le MPLA d'Agostino Neto et de tous ces gens. Il va ensuite engager des relations diplomatico-militaires avec l'envoi de soldats, de contingents de plusieurs milliers de personnes, notamment en Angola, pour conduire une guerre. Cette guerre a comme adversaire l'UNITA de Jonas Savimbi et au-delà, le régime de l'apartheid, c'est-à-dire les soutiens sud-africains à la contre-révolution en Angola. Et donc, très rapidement, Cuba va cristalliser sa position idéologique sur la lutte contre l'apartheid. Et c'est très certainement la principale image qui va rester de Cuba en Afrique. C'est le principal État non africain qui a soutenu l'ANC, l'African National Congress, de Nelson Mandela, qui a soutenu la lutte contre l'apartheid de manière totale et permanente.
Et d'ailleurs, on se souvient, Jean-Pierre Bach, Nelson Mandela, après son arrivée, après sa libération et son arrivée au pouvoir, avait réservé sa première visite officielle à La Havane.
Exactement, et il dira d'ailleurs à ses partenaires américains que les Américains et les Occidentaux en général ont une manière très centrée de voir le monde, et qu'en gros, la répartition, Mandela leur fait une critique en disant « Votre répartition du monde, c'est en gros les libéraux et les dictateurs, eh bien, nous qui avons souffert l'apartheid, qui avons souffert préalablement la colonisation, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Cuba a toujours été de notre côté contre l'apartheid et la colonisation. » Ce discours aux États-Unis va notamment perturber beaucoup, va permettre de décentrer une certaine idée de la géopolitique dans les années 90. Et puis, Cuba, il faut le rappeler, c'est aussi un engagement auprès d'autres dictatures, notamment dans la guerre de l'Ogaden en Éthiopie, où Cuba va envoyer auprès de Mengistu, du derg de son régime communiste, d'énormes contingents militaires pour soutenir ce régime. Alors, là-dedans, il faut bien comprendre qu'encore aujourd'hui, vous avez un monument aux morts cubains à Addis Abeba. Il y a le souvenir de l'engagement physique des soldats cubains auprès de soldats africains, alors quels que soient d'ailleurs les régimes, que ce soit des régimes autoritaires, que ce soit des maquis, et ça, très certainement, c'est un signe aussi distinctif de Cuba par rapport à la Chine ou à l'URSS. Enfin, Cuba, c'est aussi un allié de Moscou contre la Chine dans ce repositionnement géopolitique des années 60-70, et de fait, Cuba et la Chine ne partageront pas tout à fait la même vision de l'émancipation de l'Afrique.
Alors, aujourd'hui, Jean-Pierre Ball, Cuba n'a plus les moyens d'entretenir cette flamme révolutionnaire à l'extérieur de son territoire. Et puis, le contexte a totalement changé, bien entendu. Mais qu'est-ce qui reste quand même aujourd'hui de cette époque d'intense collaboration entre régime anti-impérialiste, mouvement anti-coloniaux, mouvement anti-impérialiste? Est-ce que c'est un passé qui est un peu oublié? Est-ce que c'est une mémoire qui est entretenue par les dirigeants actuels? Est-ce que c'est aussi une mémoire qui est peut-être un petit peu instrumentalisée ou romantisée? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, les traces de cet héritage, de ce passé castriste en Afrique?
Certainement un peu tout ça. Un mélange un peu complexe où chacun va essayer de trouver dans le Cuba révolutionnaire l'image de la révolution la plus séduisante pour ce qu'il veut. Il y a encore beaucoup d'étudiants d'anciens régimes marxistes et révolutionnaires qui continuent à aller se former à Cuba, par exemple. Il y a surtout le maintien, j'insiste dessus, le maintien de l'image de Castro et Cuba, principal allié non africain de Mandela et de l'ANC contre l'apartheid. Il y a enfin une certaine idée de ce qu'est la révolution. La devise de l'Union des jeunesses communistes, c'était « Estudio trabajo fusil », et c'est exactement ça qui a été colporté dans l'imaginaire insurrectionnel de beaucoup de révolutionnaires. Des études, le combat, pour à terme travailler à la construction des nouvelles nations africaines. Tout ça, évidemment, est un peu dilué à travers différents profils, ou plus exactement s'hybride. On voit bien comment la figure d'Anjiawara, dans une certaine mesure la figure de Thomas Sankara, de manière générale la figure du révolutionnaire qui cherche à mettre en avant une forme de souveraineté populaire, qui cherche à donner l'égalité par l'éducation, tout ça participe directement de ce mariage avec la légende castriste. Il y a enfin la dimension anti-impérialiste. Cuba, on a ouvert cet entretien sur la capsule du discours de Castro. Cuba, effectivement, n'a jamais développé d'agenda autre que politique en Afrique. Et de coopération parfois, notamment avec la question de la coopération sanitaire, l'envoi de médecins. Mais n'a clairement jamais développé directement d'agenda économique. Donc il y avait une forme, à la différence de tous les autres partenaires, et pas seulement des Occidentaux, y compris vis-à-vis de l'URSS ou de la Chine, il y avait une autre façon d'entrevoir la révolution à travers Cuba, et c'est très certainement ça qui a expliqué sa singularité dans un contexte, il faut le rappeler, de guerre froide. Après les années 90, évidemment, la donne va relativement changer parce que le contexte géopolitique et les moyens de Cuba dans ces circonstances vont profondément évoluer.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bas, je rappelle historien et archiviste, chercheur associé à l'École nationale des chartes PSL Université. Je rappelle aussi votre dernier ouvrage, Les réseaux Focard, l'homme des affaires secrètes, c'était paru aux éditions Nouveau Monde en 2018. On en trouvera les références sur notre site. Enciende la luz pastora para mirar el reloj. Enciende la luz pastora para mirar el reloj. Mira que ya amaneció, los gallos están cantando. Enciende la luz pastora para mirar el reloj, mamá. Enciende la luz pastora para mirar el reloj. Enciende la luz pastora para mirar el reloj. On se quitte sur cette terre choisie par notre réalisateur Benjamin U. Enciende la luz pastora d'Abdelardo Barroso. Merci infiniment à nos deux invités qui étaient avec nous à distance ce matin. Janice Argaio, je rappelle, maîtresse de conférence en civilisation latino-américaine à l'université Stendhal Grenoble 3. Un ouvrage apparaît bientôt tiré d'un colloque que vous aviez organisé en 2017 sur la figure de Che Guevara. Et Olivier Dabène, merci infiniment, professeur des universités à Sciences Po, président de l'OPAL, qui est, je rappelle pour vous, l'Amérique latine à l'époque contemporaine chez Armand Collin, mais aussi Street Art and Democracy in Latin America aux éditions Palgrave Macmillan, paru cette année en 2020. Tout de suite, c'est l'heure du Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, les géants du numérique peuvent-ils être considérés comme des monopoles et se voir appliquer aux États-Unis même la législation contre les trusts ?
Ben oui, parce que chacun dans leur domaine, Amazon, Google, Facebook, Twitter, voire Netflix, sont devenus tellement puissants que leur position sur leurs créneaux respectifs peut être décrite comme dominante. Et aux États-Unis, leur pays de naissance, on entend depuis des années des voix assurer qu'ils relèvent désormais de la législation antitrust. Les énormes capitaux qu'ils accumulent leur permettent de racheter toutes les sociétés qui pourraient ébrécher leur situation monopolistique, comme l'a fait Facebook avec Instagram et WhatsApp, ou Google avec YouTube. À présent, les barrières aux nouveaux entrants sont telles qu'on imagine mal en voir émerger aux États-Unis même de nouveau. Cela pose problème. Après tout, d'autres sociétés géantes, l'empire pétrolier créé par Rockefeller, Standard Oil, ou encore le géant de la téléphonie AT&T, ont été démantelés par le Congrès. Un tel démantèlement des empires de l'économie numérique, c'est ce que réclame Robert Reich, l'ancien secrétaire au travail, de Bill Clinton. Mais les questions que posent ces quasi-monopoles sont actuellement en train de changer de nature. Après avoir mis en cause leur puissance économique exagérée, leurs détracteurs s'inquiètent à présent de leur pouvoir politique. Dans une tribune publiée hier par la revue Foreign Affairs, Francis Fukuyama, Barack Richman et Ashish Goel lancent un cri d'alarme. Comment sauver la démocratie de la technologie? Amazon, Apple, Facebook, Google ou Twitter étaient déjà toutes puissantes avant l'épidémie du Covid, écrivent-ils. Mais les mesures de confinement prises un peu partout sur la planète pour tenter de l'endiguer, ont encore renforcé la place du numérique dans nos vies et donc accru le poids des géants du secteur. Logique, quand on s'ennuie confiné chez soi, on passe beaucoup plus de temps sur ses écrans. Et lorsque les magasins sont fermés, on achète en ligne. Non seulement les plateformes sont devenues aussi riches que bien des États, mais elles ont acquis un haut degré de contrôle sur la communication politique elle-même. Ces béhémotes, écrivent nos trois signataires, dominent à présent la dissémination de l'information et la mobilisation politique. Il ne s'agit plus seulement de concentration économique, de constitution de monopole, ni d'atteinte à la vie privée des utilisateurs. Ce qui est en cause à présent, c'est leur influence politique. Ils ne se contentent pas de fausser le marché, ils menacent la démocratie, écrivent les trois signataires.
Et en quoi menace-t-il la démocratie, selon Francis Fukuyama ?
C'est grâce aux géants du numérique que les complotistes, par exemple les plus délirants, trouvent désormais une large et pernicieuse audience, déstabilisant nos démocraties en jetant la suspicion sur toute parole d'autorité ou d'expertise. Ce sont les réseaux sociaux qui nous enferment par leurs algorithmes dans des bulles cognitives où nous ne croisons bientôt plus que des gens qui pensent comme nous. Plus grave encore peut-être, ils ont acquis la capacité d'influencer le débat politique en favorisant tel ou tel courant d'opinion. Il est temps de prendre des mesures pour limiter ce pouvoir. Aujourd'hui, cette exigence émane principalement des milieux conservateurs, qu'énervent les partis pris progressistes affichés par Jeff Bezos d'Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Sundar Pichai de Google ou Jack Dorsey de Twitter. La Silicon Valley accumule les milliards, mais se donne bonne conscience en proclamant la justice sociale tendance woke. Mais la gauche devrait se méfier. Les milliardaires de droite ne manquent pas. Et si Jeff Bezos a pu s'offrir le Washington Post, c'est Robert Murdoch qui a racheté le Wall Street Journal. On sait qu'Amazon est devenu tellement puissant qu'il espionne les politiques considérées par Jeff Bezos comme hostiles à son expansion. Des eurodéputés en auraient récemment fait les frais. Et Mark Zuckerberg a admis que Cambridge Analytica, une société qui vise à influencer les électeurs dans un sens favorable aux républicains, avait pu impunément siphonner les informations confidentielles de plusieurs dizaines de millions d'Américains sur Facebook lors de la campagne électorale de 2016. À la même époque, ce réseau social a laissé les services russes animer quantité de faux comptes destinés à jeter le trouble et à polariser l'opinion dans les démocraties occidentales. Mais l'ensemble des plateformes possède sur les goûts, les idées et les réseaux relationnels de chacun d'entre nous des masses d'informations. Elles leur permettraient d'exercer des pressions sur des politiciens, préviennent les co-signataires. Imaginez, poursuivent-ils, que Facebook se mette à coopérer avec un département de la justice fortement politisé afin de nuire à l'opposition du moment. D'où leur avertissement, je cite, « La concentration de pouvoir tant économique que politique des plateformes numériques, est comme une arme chargée posée sur une table. À un moment, les gens assis de l'autre côté de la table sont susceptibles de s'en saisir et d'appuyer sur la gâchette. Aucune démocratie libérale ne peut se satisfaire de confier un pouvoir politique aussi concentré à des individus en assumant qu'ils sont animés, ma foi, de bonnes intentions. »
Merci beaucoup Brice Couturier, votre chronique à retrouver et réécouter sur franceculture.fr. Et nous on se retrouve demain pour parler de la mémoire de Nelson Mandela.